Chapitre 8. Accords matrimoniaux. Il est à peu près inutile de dire que Bengali manqua à la presque promesse qui lui avait été arrachée d'accompagner sa tante au dîner offert à cette riche parente. Il s'était mis en tête de découvrir Georgette, dont la pensée ne le quittait pas. La découvrir, mais comment ? C'est ce qui le préoccupait autrement que l'invitation de l'obséquieux trio. Jujube avait bien fait les choses, car si certains jours on en était réduit au simple miroton et au fromage, quand on avait des convives, on sortait la porcelaine de Saxe, les couteaux en vermeil, les verres de baccarat et le seau à glace, et on commandait le repas à Potel et Chabot, qui envoyaient avec le menu un garçon en habit noir, cravate blanche et gants de même couleur pour le service de la table. On exprima à Mademoiselle Pied-de-Vache les vifs regrets causés par l'absence de son neveu, dont on exalta l'esprit et la belle humeur. Et Jujube, qui dans ses déceptions fréquentes trouvait toujours une contrepartie consolante, pensa qu'après tout la présence de Bengali aurait rendu difficiles les allusions au mariage désiré. La tante était fort irritée contre lui. Voilà 15 jours que je ne l'ai vu, le chenapan, dit-elle. On l'excusa. Mademoiselle Pied-de-Vache habite Saint-Mandé. C'est un peu loin pour l'aller voir souvent. La vieille demoiselle répliqua que son vaurien de neveu avait toujours de bonnes raisons à lui donner. Je vais chez lui, dit-elle, et je ne le trouve jamais. Je lui écris, il me répond des lettres charmantes, mais il ne vient pas. Cependant, ajouta-t-elle, il m'a formellement promis de venir samedi, c'est ma fête. Oh, il sait que ce jour-là, je ne le tenterai pas. Mais il faut le marier, dit Jujube. La ligne était jetée. La femme à moustache mordrait-elle à l'hameçon. L'artiste pensa que la présence d'Athalie pourrait le gêner pour continuer ses petites manœuvres matrimoniales. Et suivant son habitude, quand il voulait l'éloigner, il l'envoya étudier son piano. « Il faut le marier » répéta-t-il dès qu'elle eut disparu. « Mais oui, il n'y a que cela pour faire se ranger un jeune homme » ajouta la mère. « J'y ai bien pensé » répondit la tante, « mais il n'est guère mariable. »« Oh, il aime la vie de garçon, c'est son âge. » Mais l'amour peut changer ses idées. Changer ses idées, changer ses maîtresses, oui, 3 fois par semaine, autant que de chemise, parbleu, le marié. Mais je ne demande pas mieux, ça ne serait pas difficile. Bon, je ne tiens pas à la fortune, la jeune fille n'aurait pas un sou de dette, ça me serait égal. Ah, vous avez bien raison, s'écrièrent les deux époux. Mademoiselle Pied-de-Vache continua. « Je donnerai à mon neveu une dot suffisante pour qu'il puisse se marier à son goût, par amour, à condition cependant que l'absence de fortune de la demoiselle sera compensée par l'honneur pour lui d'entrer dans une famille distinguée. » Madame Jujube jeta une sonde. « Une famille d'artistes, par exemple, fit-elle. » « Oui, de grands artistes, d'artistes renommés, ajouta le mari. » « Oui, j'aime beaucoup les artistes, » répondit la tante, qui, on le voit, mordait à l'hameçon. Ce que voyant, Jujube lança cette deuxième sonde qui jugea devoir être triomphante. « Un beau-père, chevalier de la Légion d'honneur. » Et il ne s'était pas trompé. Mais une jeune fille artiste... « Un père décoré, » dit Mademoiselle Pied-de-Vache, « mais nous avons tout cela ici. » L'entente se fit donc promptement. Les auteurs des jours d'Athalie se portèrent garants de son consentement, et il fut convenu que la famille irait dîner à Saint-Mandé le samedi suivant pour faire se trouver ensemble les deux jeunes gens qu'on voulait marier. Bengali ne se doutait guère qu'on disposait de lui, absorbé qu'il était par son idée fixe de retrouver son inhumaine. Assis devant un café, il regardait, avec soin, toutes les femmes qui passaient, parcourant au hasard les rues, les boulevards, les passages. Il se livrait au même examen, bousculant les passants, s'il apercevait au loin une taille, une démarche, une chevelure blonde, lui rappelant Georgette, et ce n'était qu'une éternelle illusion. Avant la rencontre sous la porte cochère, peu lui eût importé son erreur. Si la passante eût été jeune et jolie, il aurait tenté l'aventure. Maintenant, il s'arrêtait tout déçu. Ce n'était pas elle. Elle hantait même ses rêves, et exaspéré par cette vision obsédante. « Oh, ça, mais est-ce qu'elle ne va pas me laisser tranquille ?» se disait-il. « On n'est pas serein comme moi. » Tout ça pour une question d'amour propre, parce que je suis vexé qu'elle n'ait pas voulu m'écouter. Si elle en aime un autre pour le mariage, oh, le mariage, merci. Eh bien, mais cette belle jeunesse, comment l'emploierait-on? Et la liberté de faire tout ce qui se passe par la tête? Elle m'a déjà fait oublier un tas de rendez-vous, de parties de plaisir. Ah, à propos de la fête de ma tante que j'allais oublier. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais... Ah, et puis, tout en marchant, Bengali retombait dans ses incessantes rêveries. « Oh, c'est elle !» cria-t-il tout à coup. Et en s'élançant pour se mettre à la poursuite de celle qu'il venait d'envoyer au diable, il se heurta dans un passant qui le repoussa brusquement, en accompagnant sa voix de fête d'un juron énergique. Bengali se prépara à bousculer le malencontreux personnage. C'était marocain. Notre jeune homme se rappela immédiatement que Georgette lui avait dit être la filleule de Madame Marocain. Peut-être venait-elle de quitter le mari de sa marraine, ce n'était pas le moment de la poursuivre. Mais il pensa qu'en interrogeant adroitement l'homme que le hasard plaçait sous ses pas, il pourrait connaître le nouveau domicile de celle qu'il avait vainement cherchée. Il ignorait que Marocain savait tout et que le changement de domicile, c'est lui qui l'avait exigé. « Eh, ben, dit notre amoureux, je ne me trompe pas, c'est monsieur Marocain, commanditaire. »« Moi-même, répondit celui-ci d'un ton amer, monsieur Bengali, marchant le piège à tortue. »« Ah, une plaisanterie, dit-il en riant. » Puis, lui tendant la main, « enchanté de vous revoir. » Marocain répondit froidement ce chaleureux accueil, et Bengali se demanda comment amener la conversation sur un terrain propice au but qu'il se proposait. Il y en avait un excellent qui lui revint en mémoire. « Le jour de cette fameuse averse, dit-il, vous alliez tenir sur les fonds un petit citoyen français. »« Oui, monsieur. »« Alors, vous êtes parrain ?»« Oui, monsieur. » « Et comment va-t-il, votre filleul ?»« Très bien, monsieur. Et c'est madame qui était marraine, peut-être ?»« Non, monsieur, non. »« Ah oui, c'est qu'elle a peut-être déjà un filleul ou une filleule. »« Oui, monsieur, une filleule sur laquelle elle veille. »« Nous veillons, veux-je dire, avec le plus grand soin. » « Je vous demande pardon de vous quitter, je suis attendu. J'ai bien l'honneur. » Et Marocain s'éloigna. « C'est un fou, se dit Bengali. Il m'en veut encore de ma blague des pièges à tortue. Il faut trouver autre chose. Autre chose, mais quoi ?» Tout à coup, il se frappa le front. « Ah, mais suis-je assez bête, dit-il. » Une chose si simple, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Elle est peintre sur éventail, eh bien, en allant chez tous les éventaillistes, parbleu, mais c'est ça! Et il entra dans un café, se fit servir une consommation, et demanda l'almanach Bottin. Chapitre 9. Chez Mademoiselle Pied-de-Vache. Mademoiselle Pied-de-Vache, on le sait, demeure à Saint-Mandé. Son habitation est sur l'avenue de l'Étang. C'est un élégant cottage avec écurie et remise que lui a fait construire, où il y a 32 ans, un riche Anglais, Sir John, baronnet, alors officier dans l'armée des Indes. Grièvement blessé en combattant la révolte des Sipahis, il avait obtenu un congé de convalescence, était venu à Paris, y avait fait la connaissance de Mademoiselle Pied-de-Vache, célèbre alors par sa beauté et ses aventures galantes, l'avait enlevé à tous ses rivaux et caché dans le joli refuge qu'il lui avait fait construire. Caché en effet, car l'endroit était alors solitaire, bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Rappelé après 2 ans de repos, Charles John était retourné aux Indes et Mademoiselle Pied-de-Vache ne l'avait jamais revu. Elle s'était empressée, bien entendu, de lui donner de nombreux successeurs qui, eux aussi, lui avaient laissé d'opulents souvenirs. Et c'est ainsi que la tante de Bengali possédait une jolie fortune qu'elle devait lui laisser un jour. N'ayant d'ailleurs pas de train de maison, elle était loin de dépenser ses revenus. Une cuisinière et un vieil imbécile de domestique nommé Dindois, servant de sommelier, de jardinier et de cocher, suffisaient à son service. Les jours de gala, elle leur adjoignait un extra. C'est ce qu'elle avait fait à l'occasion de sa fête pour recevoir la famille Jujube. La maison d'ailleurs était animée par divers commensaux à poils et à plumes, un grand chien de garde, un vieil espagnol asthmatique, des pigeons et un perroquet, l'animal le plus extraordinaire qu'on eût pu trouver dans cette espèce réputée pour répéter tout ce qu'elle entend. Il n'avait retenu qu'un seul bruit, assez difficile à expliquer congrûment. Il suffira de dire que le perroquet l'imitait à s'y prendre, et que Mademoiselle Pied-de-Vache avait des visiteurs ou des convives, et que le perroquet faisait son imitation. Tout le monde se regardait, et les jeunes filles rougissaient, et chacun semblait se demander « Mais qui donc est si mal appris ?»« Mais tu te tairs, Jaco !» criait sa maîtresse avec colère. « Il ne sait que cela, cet imbécile d'oiseau !» Et tout le monde alors de rire et de se dire in petto qui lui avait appris ce qu'il avait si bien retenu, ou plutôt ce qu'il ne retenait pas plus que le professeur dont il révélait les habitudes. Mademoiselle Pied-de-Vache mettait cela sur le compte du vieux Dindol. « Moi, madame !» protestait le bonhomme ahuri, et sa maîtresse de mettre fin à la discussion par cet ordre impératif. « Ne répétez pas !» ce qui achevait de mettre la compagnie en gaieté. La fête de Mademoiselle Pied-de-Vache se trouvait être un dimanche. C'était la veille, suivant l'usage, qu'on devait la lui souhaiter. Le samedi est aussi le jour préféré des jeunes mariés, ouvriers ou petits employés qui seraient obligés d'aller le lendemain de leur mariage à leur atelier ou à leur bureau, si ce lendemain n'était pas un dimanche. Bon nombre de ces modestes noces vont avant dîner et se promener et se réjouir au bois de Saint-Mandé. Mademoiselle Pied-de-Vache avait projeté de conduire ses hôtes au café-restaurant du bois, le chalet, où se rencontrent et se confondent plusieurs noces étrangères les unes aux autres, dans une joyeuse sauterie au son du violon ou de la clarinette, d'un ménétrier plus ou moins récompensé par les pièces de 2 sous des danseurs. Bengali lui avait bien promis d'être chez elle à 3 heures. Elle voulait le préparer au projet d'alliance avec la famille Jujube, et celle-ci, d'accord avec elle, ne devait venir que plus tard, afin de connaître le résultat de ce qu'on appelle en politique un échange de vues. Elle arriva donc à 4 heures. Jujube ne s'était pas contenté d'orner sa boutonnière du simple ruban. Il portait sur sa poitrine la croix grand modèle pour éblouir les regards respectueux des braves gens au milieu desquels on devait aller s'encanailler. « Oh, des folies !» s'écria Mademoiselle Pied de Vache en voyant ses futurs alliés retirer de la voiture qui les avait amenés de magnifiques bouquets de fête achetés à son intention, et qu'elle ne cessait d'admirer, s'extasiant sur chacune des fleurs qui les composaient, sur le goût qui avait présidé à leur confection. Naturellement, on ne manqua pas de dire que cela venait de chez Isabelle. Puis on embrassa l'héroïne de la fête, après quoi on s'informa de Bengali. À ce moment, une espèce de toux se faisait entendre dans une pièce voisine. « C'est lui qui tousse ?» demanda Athalie. « Non, non, répondit la tante, c'est Aristide, mon petit chien, qui a son asthme. Mon neveu n'est pas encore arrivé, mais il sera ici dans quelques instants. Jamais il n'a manqué de venir me souhaiter ma fête. Il sait que vous nous avez fait l'honneur de nous convier à cette fête de famille ?» demanda Jujube. « Non, je l'avais vu avant de vous faire cette invitation, et depuis ce jour, je n'ai pas entendu parler de lui. S'il vous savait ici, il ne serait pas laissé attarder par je ne sais qui dit quoi. Je lui ai écrit de venir à 3 heures, il en est bientôt 4. Il va certainement arriver. Quant à nos projets, je trouverai bien un moment pour sonder ses intentions. » Ici, là, tout d'Aristide, prenant un caractère plus aigu. « Pauvre bête !» dit Mademoiselle Pied de Vache. « Je vais lui faire une fumigation de deutérostramonium. Excusez-moi. » Et elle sortit précipitamment, laissant ses invités fort contrariés du retard de Bengali. « Sa tante lui aurait parlé, » dit Madame Juju, « mais nous saurions ses intentions. » « Oh, ses intentions !» fit Jujube avec ironie. « Alors elle lui aurait demandé comme ça, brusquement, « Veux-tu épouser Mademoiselle Jujubesse ?»« Oh non, mon ami, je voulais seulement... »« Allons, tais-toi, c'est stupide !»« Mais papa, hasarda Athalie, assez !» ordonna Jujube. Et comme on ne répliquait jamais quand ce petit tyran imposait silence, les deux femmes se turent. Et de la pièce voisine, on entendait la maîtresse du chien asthmatique adresser des encouragements à son malade. « Ça va se passer, mon chéri. Vois-tu la bonne fumigation? C'est pour guérir Aristide. Pour le petit toutou à sa mémère, oh, il va plus tousser. Alors, tiens-toi un peu tranquille, et après tu auras ça. Ah, pour ce qui est ce sucre-là ?» Pour Aristide, non, non, pas encore, tout à l'heure, si tu es bien sage. Et l'artiste, après avoir regardé plusieurs fois sa montre, de reprendre, mais pourvu qu'il vienne, 40 francs de fleurs, une voiture, oh, tout cela pour rien, ce ne serait pas drôle. À ce moment, un bruit déplacé entre gens bien élevés se fit entendre. C'était le perroquet qui faisait son imitation. Jujube lança des regards courroucés à sa femme. « C'est toi qui as fait cela ?» dit-il. « Moi, mais non !» répondit Madame Jujube ahurie. « Alors c'est toi ?» dit-il à Athalie. « Oh, papa !» répondit la pauvre fille toute honteuse. « Enfin, nous ne sommes que nous trois, et comme ce n'est pas moi !» Mademoiselle Pied de Vache rentra et on se tut. « Mais 4 heures et demie, dit-elle, il n'arrive pas, il comprend rien. » Bengali n'avait pas oublié ce devoir auquel il ne manquait jamais. Il cherchait l'adresse de Georgette chez tous les éventaillistes de Paris dont il avait dressé la liste. Il avait retenu une voiture à la journée, se faisait conduire à toutes les adresses par lui relever dans le bottin, se présentait comme fabricant d'éventails à Mexico. Il avait beaucoup entendu parler d'une jeune artiste, Mademoiselle Georgette, qu'il désirait employer. Il s'était présenté chez elle, mais elle avait déménagé, on ignorait son domicile, etc., etc. Et partout, on lui avait répondu qu'on ne connaissait pas cette demoiselle. Enfin, le jour même où sa tante l'attendait, la maîtresse d'un magasin répondit à sa question. « Ah, Mademoiselle Georgette, oui, une blonde très jolie. »« Oui, c'est cela même, oui, madame. » « Vous la connaissez donc ?» demanda la dame surprise. « Vous venez de me dire que vous arrivez de Mexico, qu'on vous avait parlé de cette jeune fille. »« Non, je ne la connais pas. Non, madame, on me l'a dépeinte telle que vous venez de le faire. »« Ah, très bien, monsieur. Oui, j'ai pris note de sa nouvelle adresse, je vais vous la donner. »« Enfin !» se dit Bengali tout joyeux. « Madame, dit un nouveau venu, je viens chercher l'éventail que Madame Jujubes a donné à réparer. » Bengali se retourna à ce nom et se trouva en face de Galifâtre, le concierge dont il avait emporté le parapluie. L'irascible portier bondit. « Oh, mon voleur de parapluie, je le tiens !» et il le saisit au collet. « Mais vous vous trompez !» cria la dame. « Monsieur est un fabricant d'éventails, il arrive du Mexique. »« Lui !» hurla Galifâtre. « Il m'a dit qu'il était chef d'orchestre à la Halle au Beurre. » Les demoiselles de magasin et leur maîtresse, que l'esclandre de Galifâtre avait troublé, éclatèrent de rire à l'énoncé de cette profession. Et, ajouta le concierge, il a dit à monsieur, un instant après, qu'il était fabricant de pièges à tortue. Et le rire des dames de redoubler. Bengali se débattait sous l'étreinte de son agresseur. « Fabricant d'éventail, continua celui-ci, mais savez-vous ce que c'est que ce particulier-là? C'est un homme qui profite des orages pour offrir son bras et son parapluie aux jolies femmes qui passent. « Remets mon parapluie, ajouta-t-il. « Mais je ne l'ai pas là !» cria le don Juan de l'averse. « Où est-il ?»« Il est chez moi, je vous le renverrai ce soir. »« Ta-ta-ta-ta-ta, allons chez toi, tu me le donneras tout de suite. »« Bon, je n'ai pas le temps, j'aime mieux vous le payer. » Et Galifâtre, qui lui aussi préférait cela, se fit payer comme bon son vieux riflard crevé. Après quoi Bengali put s'échapper sans plus savoir où trouver son idole. Et voilà pourquoi Mademoiselle Pied-de-Vache attendait impatiemment son neveu. Tout à coup, des aboiements se firent entendre. « Ah, le voilà, dit-elle, je reconnais les cris de joie de mon chien quand mon neveu arrive. » Et en effet, Bengali entra, accompagné d'un énorme dogue qui lui manifestait sa joie par des bonds, lui posait ses pattes sur les épaules en avançant une langue démesurée dans le but évident de la lui passer sur le visage. « Ah bah, turban !» criait Bengali. « Ah bah, vilaine bête, allez coucher !» criait sa maîtresse. « Mais pourquoi l'a-t-on lâché ?» Et allant à la porte, « D'un doigt » cria-t-elle, « emmenez le chien d'ici !» Le vieux domestique accourut, prit turban par son collier et l'entraîna. Bengali, chargé d'un volumineux bouquet, resta stupéfait en voyant la famille Jujube souriante. « Une surprise !» dit la tante. « De bons amis qui sont venus m'apporter eux aussi de jolis bouquets. »« Voici le mien, ma chère tante, » dit-il, et il l'embrassa. « Bon, je ne devrais pas t'embrasser, flâneur ingrat. Tu m'avais promis de venir à 3 heures, mais... « Mais qu'as-tu donc, cette figure bouleversée ?» Bengali, dont le visage trahissait encore la colère contre le malencontreux concierge, rejeta son air contrarié sur la difficulté de trouver un bouquet. « Oh, j'ai eu tant d'ennuis pour en trouver un digne de vous, dit-il. J'ai été chez Isabelle, elle venait de vendre ses derniers. Les voilà, les derniers, s'écria Madame Jujube, radieuse. Nous avons dévalisé la boutique, ajouta Jujube. Alors, continua Bengali, j'ai été obligé d'aller rue de la Paix, puis rue de la Chaussée-d'Antin, puis où encore, enfin, me voilà. Et s'efforçant de reprendre l'air enjoué qui lui était habituel, « Oh, mille excuses, mesdames, de vous avoir fait attendre, » dit-il en souriant. « Oh, attendre dans la société de votre aimable tante, » dit Madame Jujube. « C'est un plaisir, » compléta le mari. Athalie plaça aussitôt sa petite flagornerie. Bengali donna du grand artiste au chef de la famille. Ce fut un chassé-croisé de gracieuseté. « Assez de compliments, » dit Mademoiselle Pied-de-Vache. « Il est temps de partir pour le bois. » Et elle fit part à Bengali de son projet d'aller voir les mariés du chalet. « Offre ton bras à Mademoiselle Athalie, » dit-elle. Jujube offrit le sien à Mademoiselle Pied-de-Vache, et l'on se dirigea vers l'endroit indiqué. Chapitre 10 Le bois de Saint-Mandé. N'écoutez pas les gens qui vous diront « Charmant Saint-Mandé avec ses villas coquettes, le joli bois qui lui sert de bordure et son petit lac dans lequel se mirent penchés sur l'onde des saules pleureurs qui semblent vouloir y baigner leurs branches. Oh oui, charmant, absolument charmant, mais c'est si peu. Six peuples, oh mon beau Paul de Coq, toi qui as dépeint avec tant de verve naïve la franche et riche gaieté du commis et de la grisette, de ces couples amoureux, de ces familles de petits bourgeois ignorants, de la villégiature des courses de chevaux et des stations balnéaires, et tout ce monde dînant joyeusement sur l'herbe du bois de Romainville, de quelle indignation ne serais-tu pas saisi à cette appellation dédaigneuse de peuple? Si tu n'avais pas quitté ce monde où tu paraissais tant te plaire, pour un autre qu'on dit meilleur, ce dont tu as peut-être douté. Pauvre cher romancier de nos pères, à toi ces calomniers, ces livres dont la frère interdit la lecture à sa fille, ces livres qui n'ont corrompu personne et ont mis en joie plusieurs générations. Oh, c'est bien fini de rire aujourd'hui. Le roman d'analyse, le roman psychologique, le roman naturaliste ont remplacé la laitière de Montfermeil, mon voisin Raymond, la pucelle de Belleville, et M. Dupont, œuvre égrillarde, mais plus saine que la dissection du cœur humain qui fait le fond du roman moderne. C'est la nature même, nous dit-on. Et Paul de Kock est un fantaisiste. Oh, fantaisiste pour la forme, c'est possible. Mais il ne nous a montré que des personnages foncièrement honnêtes. Et ces grisettes, dira-t-on, étaient-elles honnêtes? Ah, passons leur l'amant auquel elles restaient fidèles, heureuses d'une gibelotte qu'il leur offrait le dimanche à la campagne et d'une deuxième galerie à l'ambigu une fois par mois. Écoutons Henri Murgère à propos des grisettes. Ah, il s'y connaissait, celui-là. Ces jolies filles, moitié abeilles, moitié cigales, qui travaillaient en chantant toute la semaine, ne demandaient à Dieu qu'un peu de soleil le dimanche, faisaient vulgairement l'amour avec le cœur et se jetaient quelquefois par la fenêtre. Race disparue maintenant, grâce à la génération actuelle des jeunes gens. Génération corrompue et corruptrice, mais par-dessus tout vaniteuse, sotte et brutale. Pour le plaisir de faire de méchants paradoxes, ils ont raillé ces pauvres filles à propos de leurs mains mutilées par les saintes cicatrices du travail, et elles n'ont bientôt plus gagné assez pour s'acheter de la pâte d'amande. Peu à peu, ils sont parvenus à leur inoculer leur vanité et leur sottise, et c'est alors que la grisette a disparu. C'est alors que naquit la lorette, race hybride, créatures impertinentes, beauté médiocre, demi-chair, demi-onguent, dont le boudoir est un comptoir où elles débitent des morceaux de leur cœur, comme on ferait des tranches de rosbif. Les femmes de Paul de Kock. Mais le mot restait si les modèles ont disparu. Vieux jeu que la punition du vice et la récompense de la vertu au dénouement de toutes ces œuvres démodées, dit-on. Tant pis, si le contraire qu'on nous montre aujourd'hui est la vérité, si les filles se vendent aux plus offrants au lieu de se donner aux plus aimés, si au goût des économiques parties champêtres des bourgeois disparus a succédé le besoin de faire du genre ruineux chez le bourgeois moderne. Paul de Kock nous a montré un monde aimable. Le monde qu'on nous présente aujourd'hui est bien laid. Et si les livres doivent porter un enseignement, la génération que nous prépare le roman de la nouvelle école fera regretter celle qu'ont charmé les romans de Paul de Kock. Bien, comme celui qu'il a illustré, le bois de Romainville n'est plus qu'un souvenir. C'est sur les vastes pelouses de Saint-Mandé et de Vincennes, dans le bois le plus admirablement pittoresque, que chaque dimanche d'été, d'innombrables familles d'artisans vont s'installer vers l'heure du déjeuner. Ce jour-là, à la porte de tous les épiciers et marchands de vin de la riante petite ville, de grandes affiches attirent les regards. On y lit ces mots « Vin pour le bois ». C'est là que tous les braves gens vont s'approvisionner de plus ou moins de liquide selon l'importance de la famille. Les charcutiers, les boulangers eux aussi sont assaillis par les consommateurs du bois, depuis le pauvre ménage qui dînera d'un kilo de pain et de 6 sous de saucisson, qu'il arrosera d'un demi-litre à 12, jusqu'aux heureux qui, au poulet froid cuit chez eux, et apporté dans un vaste panier avec verre, couteau, sel, poivre, moutarde et nappe, peuvent ajouter le succulent jambonneau, le pâté chaud et la galantine truffée, jusqu'au café préparé à la maison et qu'on réchauffe dans la cafetière à alcool. Les pères et mères de famille se sont même munis des jeux pour les enfants et les adultes. À ceux-ci les raquettes et les volants, à ceux-là le cerceau, la raccorde et le ballon. Et entre les deux repas, les hommes en bras de chemise fument leurs pipes allongées sur l'herbe. Les mamans, femmes économes, ont quitté leur robe et endossé une camisole. Et ce sont des culbutes, des éclats de rire dont se réjouissent les passants, tout autant que ceux qui leur donnent ce spectacle. Et non loin de ces heureux groupes, la note attendrissante. Un pauvre jeune ménage, père, mère et enfant, digne d'un petit morceau de jambon, en regardant les voisins mis en joie par d'abondantes victuailles, et dont la gaieté bruyante amuse le pauvre petit, heureux du pain d'épices d'un sou que sa mère a pu lui donner. Et que de perspectives merveilleuses dans ce bois sans rival, que de tableaux pour un paysagiste, que d'études pour un écrivain, quel grouillement sur ces tapis verts s'étendant à l'infini, et quel joyeux écho sous ces voûtes de feuillage où se répercutent les rires partis de ces gazouillements énormes. Et les joueurs de boules constitués en société, et le chalet-restaurant avec son concert, ce restaurant où chaque samedi et jeudi d'été se rencontrent, comme il a été dit, des noces plus riches de gaieté que d'argent, et le manège de chevaux de bois où vont se reposer de la danse les mariés, les parents et les amis des nouveaux époux, et Guignol offrant à l'offense la tentation de Saint-Antoine avec enlèvement du sein par le diable sur l'air de la valse des roses. Ô maître, tu n'avais pas prévu que ton rythme si voluptueux et si tendre serait un jour la marche infernale qui conduirait le solitaire de la Thébaïde au séjour des damnés. Mademoiselle le pied de vache montra à ses invités les pelouses désertes ce jour-là. « C'est demain, dit-elle, que ce sera curieux. Noir de monde le dimanche. Il faudra venir un dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour des mariés. Tenez, on danse. Entendez-vous la musique ? Oui, dit Athalie, c'est une polka. Oh, que j'aime ça, la polka. Et vous, monsieur Bengali, polquez-vous bien ? Élève de grille d'égout, mademoiselle, tenez ! Et enlaçant Athalie, il l'entraîna dans une polka vertigineuse. « Oh, maman !» cria la jeune fille ravie, « comme il polque bien !» Les époux Jujube étaient bien un peu humiliés de voir polquer leur fille en plein chemin, mais ils attribuèrent l'acte spontané de Bengali à un sentiment de bon augure, au plaisir de tenir Athalie dans ses bras. Et d'ailleurs, on n'était pas exposé à rencontrer personne de connaissance dans un bois fréquenté par de petites gens. Et puis, il était de bonne politique d'applaudir à tout ce que dirait ou ferait la tante et le neveu. Or, mademoiselle Pied-de-Vache riait fort de cette danse, improvisée par son bengali gâté, et s'extasiait sur la gaieté exubérante de ce cher enfant. La vérité est que le cher enfant s'étourdissait et que la pensée de Georgette ne le quittait pas, et qu'un dépit bien près de devenir un chagrin se cachait derrière cette gaieté factice. On approchait du lieu de rendez-vous des mariés. Déjà, des gens des noces se montraient. Là, un jeune couple bras-dessus, marchant d'un pas de promenade, en causant à mi-voix. Ici, des groupes munis de petits pains de seigle. « Tenez !» dit mademoiselle Pied-de-Vache, « ils vont jeter ça aux canards et aux cygnes du lac. Encore un des plaisirs du bois. C'est très amusant, tous ces canards qui se disputent goulûment ce qu'on leur jette, et les cygnes qui battent les canards pour avoir tout. Allons donc voir ça, c'est à deux pas. » Jujube se tourna vers les distributeurs de pain de seigle et s'arrêta en avançant sa poitrine comme si l'on ne voyait pas sa croix. Mais on l'avait vue et on la regardait en ricanant. Bon, c'est probablement un garde champêtre qui est d'une des noces, dit l'un des passants. Ça peut être que ça, répondit un autre. Jujube, qui comptait sur un autre genre d'admiration, se retourna avec humeur et, prétextant de son impatience de voir le bal, entraîna mademoiselle Pied-de-Vache. « Nous voilà rendus !» dit celle-ci. En effet, on était arrivé en vue de l'emplacement but de la promenade et du terrain surélevé où l'on se trouvait, on embrassait d'un coup d'œil le spectacle des curieux qui entouraient l'établissement du chalet, les consommateurs attablés, et au milieu de ceux-ci, quatre noces, polquant pêle-mêle, heurtant les garçons chargés de bocs. On distinguait trois jeunes mariés, et au manège de chevaux de bois, établi à quelques pas de là, une quatrième chevauchant en posture d'amazone près de son mari qui avait enfourché le coursier voisin. « Entrons !» dit la tante. « Garde champêtre !» grommelait Jujube, dont le désir d'être contemplé avec respect s'était refroidi. La petite porte d'entrée était obstruée par la foule. Mademoiselle Pied-de-Vache tenta de se frayer un passage. « Mais ne poussez donc pas, madame !» lui dirent les personnes qu'elle voulait écarter. « Qu'est-ce que c'est? Elle arrive la dernière et elle veut passer devant !» dirent d'autres voix. « Monsieur Jujube, dit-elle, « alors passez le premier, votre croix fera ronger le monde. » Jujube essaya son prestige, mais un rire éclatant fit se retourner la foule, et alors ce fut un élan de gaieté générale. C'était l'effet de la croix. « Manon !» grommelait le légionnaire. « Garçon !» cria la vieille demoiselle. Nous voulons entrer, nous ne pouvons pas. Allons-nous-en, disait Mesdames Jujube. Mais Bengali intervint et écarta brusquement les gêneurs. Dégagez la porte, cria le maître de l'établissement, attiré par le bruit, ou je vais envoyer un garde. On obéit à cet ordre, et Mademoiselle Pied-de-Vache put pénétrer avec sa société au milieu des rires ironiques de la foule. Une table, dit Bengali. Pour nous seuls, ajouta la tante, nous sommes cinq. Par ici, mesdames et messieurs. La société traversa non sans peine la cohue conjugale et fut enfin s'asseoir à une table près de laquelle se trouvait un agent en uniforme. Cet ancien militaire porta la main à son képi au passage de Jujube, à qui cet hommage fit oublier la qualification de garde champêtre et les rires moqueurs des goujats de la porte. On servit des bogues, des sirops et des petits gâteaux, dont la vue fit faire la grimace à la famille Jujube. Non, ça ne vaut pas le linge exquis et distingué que vous m'avez offert, grand maître, dit Bengali, mais à la guerre comme à la guerre. Certainement, répondirent les deux époux. Ils ne sont pas de chez Frascati, affirma Attali en mangeant un gâteau, mais qu'est-ce que ça fait ? Nous ne sommes pas fiers, dit Jujube. Oui, nous savons nous prêter aux circonstances, confirma Madame Jujube. Un prélude de valse se fit entendre. Aussitôt, un tumultueux mouvement se produisit. Ce n'était que bras s'avançant, que tailles s'offrant aux enlacements, que balancement de couples prêts à tourbillonner aux premières mesures du rythme à trois temps. « Une valse, mademoiselle ?» demanda Bengali à Attali, et sans attendre la réponse, il enlaça la jeune fille et tous deux se joignirent au flot des valseurs. Jujube fit mine de s'opposer à ce que sa fille valsât en pareil lieu, surtout se mêla à des noces auxquelles elle n'était pas invitée. « Chaque noce croirait qu'elle est d'une autre, » fit remarquer Mademoiselle Pied-de-Vache. « C'est une si bonne occasion de laisser ensemble ses chers enfants. » Madame Jujube appuya ce raisonnement et Jujube se résigna. La valse finie, Bengali ramena Attali, rouge et soufflée, mais radieuse. « A-t-elle chaud ?» dit sa mère. « Oh, ça n'est rien, maman. Quel plaisir que d'avoir un valseur comme Monsieur Bengali. Mais, lui dit-elle en souriant, vous me serriez trop fort. »« Il la serrait trop fort. Ça va très bien, » murmura Mademoiselle Pied-de-Vache aux oreilles des parents. « Alors vous ne voulez plus danser avec moi ?» demanda l'éminent valseur en riant à son tour. « Oh non, je ne dis pas ça. »« C'est assez, ma fille, » déclara Jujube. « Repose-toi et nous nous en irons après. »« Quand vous voudrez, » fit la tante. « Oh, papa, encore une, rien qu'une. »« Mais, ma fille, laissez-la donc, » dit bas la vieille demoiselle au père d'Athalie. « Ça va si bien. » Jujube céda encore une fois, et la mère présenta à sa fille un verre de sirop qu'elle lui avait préparé. « Un quadrille !» crièrent des voix. « Non, 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 une valse, une polka !» répondirent d'autres voix. « Les vieux ne valsent ni ne polka !» cria une voix de stentor. « Un quadrille pour eux !»« Oui, oui » acclama-t-on en masse. Et Bengali avait prêté l'oreille et se disait « Je connais cette voix-là. »« Allons, » dit Mademoiselle Pied-de-Vache à son neveu, « c'est la dernière, invite Mademoiselle et nous partirons après. » Attali n'attendit pas l'invitation. Elle se leva, prit le bras de Bengali, et tous deux se mêlèrent à la foule des couples cherchant une place et c'était un bruit assourdissant de danseurs criant « Un vis-à-vis !» Voilà, voilà, par ici, hop là, on commence. En effet, le prélude de quadrille se faisait entendre. « Il manque un vis-à-vis !» fit une voix. « Voilà !» répondirent Athalie et son cavalier. Et ils se mirent immédiatement à la chaîne anglaise, déjà commencée. Bengali saisit vivement la main de femme tendue vers lui et sursauta tout bouleversé. Cette main qu'il avait prise en enchaînant et qu'il ne tenait déjà plus, c'était celle de Georgette. Et la jeune fille qui n'avait pas regardé son vis-à-vis dans cette évolution machinale avait présenté sa main au danseur suivant, et quand la figure achevée, notre amoureux se retrouva à sa place, il s'aperçut qu'il avait pour vis-à-vis Georgette, tout en blanc comme une mariée et un bouquet à la ceinture, Georgette qui ne le voyait pas encore, occupée qu'elle était de répondre avec sa gaieté ordinaire à son cavalier, un très joli garçon, fort empressé auprès d'elle. Le quadrille étant croisé, c'est-à-dire doublé par des danseurs placés aux côtés latéraux et alternant à chaque même figure avec ceux du premier quadrille, Bengali ne quittait pas Georgette des yeux, au grand étonnement d'Athalie. Tout à coup, il poussa un cri de douleur. « Mais faites donc attention, monsieur, dit-il, vous m'avez écrasé le pied. » « M'arrangez vos pieds, répondit brusquement le monsieur de la même voix remarquée par Bengali. Nouvelle stupéfaction de celui-ci. C'était Marocain dansant avec une femme d'une hauteur invraisemblable et d'une maigreur équivalente. « Oh, Madame Blanquette !» fit Athalie en se retournant vivement. « Qui ça, Blanquette ? Mais cette grande dame !» C'est la noce de sa fille. Ah, allons-nous-en, je veux pas qu'elle me voie ici. Bengali ne comprenait pas. Je vous expliquerai cela, dit-elle, reconduisez-moi. Il la reconduisit, prétexta quelques mots à dire à un individu de sa connaissance qu'il avait aperçu. Ne m'attendez pas, ajouta-t-il. Ma tante, monsieur, mesdames, allez devant, je serai à la maison un quart d'heure après vous. » Et il se mit aussitôt à la recherche de Georgette, marchant de l'allure de quelqu'un qui n'a pas eu le pied écrasé et bousculant tout le monde pour se frayer un passage, n'entendant même pas les clameurs qu'il soulevait. Et enfin, il se heurta dans Marocain, ayant au bras son immense danseuse. Il dissimula sa mauvaise humeur, salua la dame et dit gaiement à Marocain « Je vous demande pas de vos nouvelles, je viens de vous voir danser, et même danser sur mon pied, j'en boite encore. »« Bon, je vous fais mes excuses, » répondit Marocain, « mais dans une pareille cohue. »« Oh, monsieur Marocain, vous êtes tout excusé. Vous êtes de noces, à ce que je vois, monsieur Marocain. » « Ben oui, nous sommes à la noce de la fille de Madame Blanquette, que je viens de faire danser. »« La filleule de ma femme est la demoiselle d'honneur de la mariée. »« Ah, la filleule de Madame Marocain est ici. »« Cafard !» murmura Marocain, puis haut. « Elle vous faisait vis-à-vis, » ajouta-t-il. « Ah, vraiment, je ne l'ai pas remarqué. » Mais elle dansait avec le garçon d'honneur. Et Marocain ajouta, en jetant un regard d'intelligence à grand ressort, son fiancé. Bengali resta abasourdi et balbutia, « Ah, son !»« Oui, une nouvelle noce pour nous, dans 2 mois. Mais pardon, j'ai à reconduire, madame. Enchanté de vous avoir rencontrée. » Marocain s'éloigna et dit à Madame Blanquette, qui le questionnait du regard. Ben, « Je lui ai dit que Georgette se mariait pour qu'il renonce à ses tentatives. Je vais vous conter cela. »